écoutez RFI, 7h à Paris, 2h à Caracas.
RFI Matin.
Bonjour Martin Guez.
Bonjour Andréane, bonjour à toutes et à tous.
À la une de votre journal, le Venezuela, un mois après.
Voilà, un mois pile que le président Nicolas Maduro et son épouse ont été enlevés à Caracas par les États-Unis. Le chef d'État vénézuélien toujours emprisonné à New York, tandis que dans la capitale vénézuélienne, les autorités qui ont pris le relais organisent la transition et ont commencé à libérer des prisonniers politiques sous la pression de Washington. Des frappes d'ampleur cette nuit sur l'Ukraine, alors que la tendance était à la désescalade avec la Russie et que des pourparlers sont annoncés dans les prochains jours entre Kiev, Moscou et Washington à Abu Dhabi. Nous serons en direct avec notre correspondante en Ukraine. Nous sommes inscrits en direct d'Égypte au lendemain de la réouverture très partielle du point de passage de Rafah. Les chiffres sont très flous, mais seuls quelques malades et quelques blessés ont pu quitter la bande de Gaza pour aller se soigner en Égypte. Au Cameroun, l'église orthodoxe russe vient d'être officiellement autorisée dans le pays, ce qui inquiète, vous l'entendrez. Et puis enfin, la fontaine de Trévi est désormais payante, véritable symbole de Rome, la capitale italienne. Il faudra débourser 2 euros pour admirer le monument, ce qui n'est pas du goût de tout le monde.
Après l'enlèvement de Nicolas Maduro, les premières pierres de la transition sont posées au Venezuela.
Transition post-Maduro évoquée à Caracas par la nouvelle chef de mission diplomatique des États-Unis au Venezuela, Laura Dogu, qui s'est entretenue avec Delcy Rodriguez, la présidente par intérim du pays. Delcy Rodriguez, qui a par ailleurs nommé l'ancien ministre des Affaires étrangères, Félix Plasencia, comme chef de mission diplomatique aux États-Unis, ce qui marque un tournant dans les relations entre Washington et Caracas. Elles avaient été totalement rompues en 2019. Après la première réélection contestée de Nicolas Maduro, les autorités qui ont pris le relais à Caracas font des concessions sous la pression de Washington, avec notamment cette loi d'amnistie pour les prisonniers politiques. Une trentaine d'entre eux ont retrouvé leur liberté, Alice Campagnol.
Devant les prisons vénézuéliennes, l'espoir se lit sur tous les visages. Réclamée depuis plusieurs années, enfin, une loi d'amnistie pour les prisonniers politiques a été promise. Et les remises en liberté se sont multipliées ce week-end en attendant le vote de l'Assemblée. Un pas de géant pour les familles qui attendent.
Je suis tellement émue car j'ai pu voir mon fils 2 fois. Aujourd'hui, il était tout rouge et il m'a dit « Je sors bientôt ». Il a hâte. Bientôt, il sera à la maison avec l'aide de Dieu. Après demain, cela fera 5 mois exactement depuis qu'il a été séquestré.
Les autorités, sous la pression de Washington, avanceraient donc vers la récupération d'un état de droit au Venezuela. Mais le chemin est encore long, comme l'explique Francis Fernandez, épouse d'un journaliste qui vient d'être libéré.
On ne sait pas ce qui nous attend, mais c'est un bon début. Cependant, il nous manque encore la liberté pour tous les journalistes de parler librement. Il ne peut pas y avoir une seule voix que l'on fait taire, car c'est leur travail de se faire entendre.
L'enlèvement de Nicolas Maduro il y a un mois a chamboulé la vie politique vénézuélienne. Le tournant autoritaire de ces dernières années pourrait prendre fin. C'est ce qu'espèrent les militants pour les droits humains. Mais face à la tutelle américaine, il ne faudrait pas, disent-ils, que les Vénézuéliens perdent leur souveraineté. Alice Campagnol, Caracas, RFI.
Et ils sont encore 700 prisonniers politiques à être arbitrairement détenus au Venezuela. Nous y reviendrons avec François-Damien Bourgerie dans notre dossier de la rédaction. Rendez-vous à 7h temps universel dans le journal de Jeanne Bartoli.
Un sursis, Martin, pour les bénéficiaires du TPS aux États-Unis.
Le TPS, c'est ce statut de protection temporaire dont bénéficient principalement les migrants haïtiens. Ils sont 350 000 à vivre sous ce régime spécial qui permet à des ressortissants de pays en crise de résider, de travailler légalement sur le territoire américain. Le TPS qui devait prendre fin ce mardi, mais sa suppression est provisoirement suspendue sur décision hier soir d'une juge fédérale à Washington. Le TPS qui avait été mis en place en 2010 par Barack Obama après le séisme en Haïti qui avait fait plus de 280 000 morts.
Après des déclarations pourtant optimistes hier, des bombardements russes d'ampleur ce matin en Ukraine.
Alors que Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, saluait il y a quelques heures encore la désescalade du conflit, ce qui renforçait selon lui la confiance dans le processus de négociation. Une confiance brisée par ces nouvelles frappes. On retrouve en direct d'Ukraine notre correspondante Emmanuel Chaz. Emmanuel, la Russie a de nouveau bombardé les infrastructures énergétiques du pays.
Oui, tout à fait. Alors que les températures ont baissé à moins 23 degrés ici à Kharkiv, les infrastructures de la deuxième plus grande ville d'Ukraine ont à nouveau été visées cette nuit par des frappes russes et une grande partie de la population se retrouve sans chauffage. Le maire de la ville, Igor Terehov, enjoint les habitants à se rendre dans des points d'invincibilité. Ce sont des îlots d'énergie mis en place dans certains bâtiments publics, des écoles, des bureaux de poste où chacun peut se réchauffer, recharger des appareils électriques, parfois même y passer la nuit. Alors après quelques jours d'accalmie qui a épargné Kiev, la capitale, suite à une demande de Donald Trump, Moscou a repris ses attaques sur le réseau énergétique ukrainien, non seulement sur la capitale, mais aussi sur l'ensemble du pays. La capitale est déjà exsangue à ce sujet, alors que le pays traverse une vague de froid exceptionnelle, et ceci un jour avant la reprise de pourparlers tripartites entre délégations états-uniennes, russes et ukrainiennes, où Kiev espère surtout de voir ce que les États-Unis peuvent obtenir en matière de désescalade, alors que Volodymyr Zelensky, lui, a déjà averti que la question territoriale, par exemple, ne pourrait être réglée sans une rencontre directe avec Vladimir Poutine.
Merci Emmanuel Chaz en direct de Kharkiv sur RFI.
Une réouverture au compte-gouttes et dans des conditions, sous conditions drastiques au poste frontière de Rafah.
Un passage qui se situe entre la bande de Gaza et l'Égypte, le seul qui permet de sortir de l'enclave sans passer par Israël. Des milliers de Palestiniens blessés ou malades espèrent pouvoir sortir du territoire, mais seule une infime partie d'entre eux ont pu traverser hier. Au premier jour de la réouverture, et nous sommes en ligne avec notre correspondant au Caire, Alexandre Bucenti. Pour l'instant, le bilan est flou, seules quelques dizaines de personnes ont pu traverser dans les deux sens, c'est beaucoup moins de prévu. Alexandre, c'est une réouverture plus symbolique qu'effective.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, le côté symbolique, Nabil Chaz, qui est le président de la commission intérimaire palestinienne pour la gestion de Gaza, a insisté là-dessus en voulant faire preuve, en quelque sorte, d'optimisme, puisqu'il a déclaré sur son compte X que c'était une étape qui constituait le début d'une longue route pour réparer ce qui est déchiré et ouvrir une fenêtre d'espoir pour les habitants de Gaza. De leur côté, d'ailleurs, les autorités égyptiennes ont multiplié les déclarations de communication sur les dizaines de milliers de médecins et d'infirmiers qui sont prêts à accueillir les patients palestiniens. On a toutefois évité de donner des précisions sur les cas effectivement arrivés en Égypte. Alors pour les réseaux sociaux, ces déclarations visent à masquer l'embarras des autorités qui n'ont pas réussi à surmonter les blocages israéliens. Le couloir de grillage et de barbelés installé par Israël dans le point de passage est dénoncé par des internautes qui voient leur appel par l'État hébreu que Gaza reste une prison à ciel ouvert.
Merci Alexandre Bucenti, correspondant de RFI en Égypte.
Vers des négociations directes, Martin, ce vendredi en Turquie entre l'Iran et les États-Unis.
Après des menaces d'intervention militaire américaine, l'heure est aux négociations, aux tractations et des discussions pourraient même être entamées dès vendredi. Discussions qui pourraient donc se tenir en Turquie entre le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi et l'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff.
Onde de choc dans l'affaire Epstein et réaction en chaîne aux États-Unis comme en Europe.
Epstein, du nom de ce criminel sexuel, ami des puissants qui s'est suicidé en prison en 2019. De nouvelles révélations qui touchent notamment la princesse de Norvège, Mette Marit, ou l'ancien ministre français de la Culture, Jacques Lang. On fait le point avec Marine de la Moissonnière.
Le nom de Mette Marit apparaît au moins un millier de fois dans ses documents, selon un journal norvégien qui publie certains messages échangés entre la future reine de Norvège et le pédocriminel. On y découvre une grande complicité et des propos parfois choquants. Autre famille royale éclaboussée, celle de Belgique, le frère du roi, le prince Laurent, a reconnu avoir rencontré Jeffrey Epstein à deux reprises, seul à seul, affirme-t-il. Au Royaume-Uni, l'ex-prince Andrew est à nouveau dans la tourmente avec la publication de nouveaux emails et photos compromettantes, tout comme l'ancien ministre Peter Mandelson. Il avait dû renoncer à son poste d'ambassadeur aux États-Unis après de premières révélations. Là, il quitte le parti travailliste et pourrait avoir affaire à la justice. La police de Londres s'est saisie du dossier. Enfin, en France, l'ancien ministre de la Culture, Jacques Lang, assume pleinement ses liens avec Jeffrey Epstein, des liens financiers à une époque où rien ne laissait supposer qu'il pouvait être au cœur d'un réseau de criminalité, dit-il. Sa fille Caroline, également impliquée, a démissionné de la tête d'un syndicat de producteurs de cinéma.
Explication signée Marine de la Mossonnière.
RFI 7h09 à Paris comme à Yaoundé, le Cameroun, où l'église orthodoxe russe est désormais officiellement autorisée.
Oui, nouvelles églises ont été autorisées dans le pays il y a une dizaine de jours par décret présidentiel, dont l'église orthodoxe russe qui gagne du terrain sur le continent africain. Une nouvelle inquiétante pour l'archevêque de l'église orthodoxe de Yaoundé, une figure respectée de l'orthodoxie grecque implantée au Cameroun depuis le 19e siècle, qui compte aujourd'hui 60 000 membres, une figure qu'a pu joindre pour RFI Amélie Tulé.
Sur le fond comme sur la méthode, depuis des années, Monseigneur Grégoire alerte sur les pratiques d'une église russe qui ne respecte selon lui ni l'histoire ni les fondements de la foi orthodoxe.
Le patriarcat Moscou réagit comme une extension des services secrets de leur gouvernement. Ils soutenirent les guerres contre un autre pays orthodoxe, que c'est l'Ukraine. Il faut seulement réfléchir. Si une église soutenir la guerre, ça veut dire que c'est une partie d'une propagande.
De plus, entre églises orthodoxes, il ne doit en principe pas y avoir de concurrence territoriale. Or, le métropolite de Yaoundé a observé comment 6 de ses anciens prêtres ont été débauchés.
À travers le Facebook et les social media, ils ont commencé à faire l'amitié, envoyer les petits cadeaux, et après, ils ont commencé à caractériser les Grecs évêques comme racistes. Et aussi, ils ont donné milliers de promesses qui vont acheter les voitures, construire les maisons, comme ça, comme ça, comme ça.
Lors d'un récent synode de l'église orthodoxe grecque, Monseigneur Grégoire avait présenté un travail d'analyse des différentes dimensions de l'influence russe sur le continent, et notamment comment les débuts de l'église orthodoxe russe ont été sponsorisés par la société paramilitaire Wagner.
Et la percée de l'église orthodoxe russe sur le continent africain, on y reviendra longuement ce soir, ce sera l'objet d'Afrique Soir, ce mardi sur RFI.
On termine ce journal à Rome, Martin, devant la célèbre fontaine de Trevi.
Ah oui, une icône, presque un cliché de l'Italie où chaque touriste prend le temps de jeter une pièce dans l'eau dans l'espoir de bonne fortune. Et bien désormais, il faudra payer avant même d'accéder à la fontaine 2 € pour admirer le monument. Des recettes qui doivent permettre d'entretenir le patrimoine culturel romain. La ville veut aussi réguler au mieux les flux de touristes, toujours plus nombreux sur la voie romaine. Anne Lenir.
À première vue, rien n'a vraiment changé. La place où se situe la fontaine de Trevi déborde de touristes. Il faut dire que ce chef-d'œuvre du XVIIIe siècle attire jusqu'à 70 000 visiteurs par jour. Mais si l'on se penche vers le bassin, le périmètre est beaucoup plus dégagé que par le passé. Pascal et Valérie, originaires de Gérard.
Renard n'est qu'un tocard, un zonard, un minable, une baltringue, un as, un faiblard, un brigand, une petite frappe, un petit salopard, il taffe au black. Dans une tanière du boulevard, maître corbeau, star à gronde, perché en costard, fait partie de la haute zerma, il fume son cigare, il est actionnaire de la grosse tanière, madame corbeau, en est la riche héritière, maître renard, vénère, en galère de Jean Hart, il a même plus un gémant dans le placard, il déprime avec son pétard et son pinard en attendant qu'il arrive le grand soir, maître corbeau. Aime les euros, les restos, les vacances. À l'œil sur le yacht de son poteau, il a du goût, le salon, du standing et de la classe. Lui ne partage qu'avec ceux de sa race, maître renard. Et sur la paille n'a plus un dard, maître corbeau. Toujours tranquille, toujours peinard, maître renard. Risque de faire une connerie, se faire un sarc corbeau en michoui à midi.
Si maître corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si maître corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si maître corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si maître corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage.
Maître corbeau sur son arbre perché tenait dans son bec un fromage. Maître corbeau était tout de noir vêtu, on ne voyait que ses yeux dépassés de son plumage. Et voilà que débarque le renard. Ouais, c'est bon, enlève ta bourque, barco. Wesh, tu croyais pouvoir passer incognito. T'es pas un corbeau, tu serais plutôt dans le genre pivoleuse. Ce fromage n'est pas le tien, c'est au peuple des renards qu'il appartient. Faudrait que tu rendes ton butin. Bah tiens, trop c'est trop, maître corbeau, furax, passe un coup de bigot. Et voilà que les chiens policiers débarquent aussitôt. Une horde de molosses dans le genre berger allemand encercle et bastonne le renard jusqu'à lui faire perdre toutes ses dents. Le corbeau est fier de lui. Ah, je suis vraiment trop fort, c'est vrai, j'avoue, rien à dire, je suis le boss. Toutes les meufs me kiffent, normal. J'ai trop de style, trop de classe, trop de flow quand je me pointe quelque part.
C'est chaud.
Face à tant de vanité, le renard a compris que c'était l'occasion rêvée pour récupérer le fromage 5 sacré. Votre majesté, votre jour de gloire est arrivé. Et ce jour, il faut qu'on l'immortalise. Une photo, oh, excellente idée. Souriez à pleines dents et dites cheese.
Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage.
Il était une fois, hey, y a pas si longtemps, des renards fatigués, mais pas si méchants, fatigués de voir les corbeaux prendre les décisions et courir pour pouvoir nourrir tous leurs rejetons. Quoi qu'ils fassent, y a pas tout le temps, y a pas le bonheur, y a pas le beurre et la farine, y a pas. Mais franchement, y a pas à applaudir qu'à la maigreur de leur bonheur prenait de l'ampleur de pire en pire. Leurs yeux devenaient fous et leurs crocs luisaient la bave. Ils avaient décidé de prendre un corbeau en otage. 14 jours à peu près de séquestration, ils l'ont lâché avec des plumes en moins sur le plastron, ce qui déclencha la fureur du conseil corbuesque. Il y eut des représailles terribles et sans finesse, et ceux d'entre eux qui réussirent à s'échapper du mur sans porte vivent sous terre. Ils vivent bien cachés, mais on dit qu'un jour sortit une prophétie qui aurait dit qu'un renard sans haine et sans fusil rétablirait à lui seul l'honneur de tous les renardons de la fontaine. Quand même, hein, ça serait bien quand même, hein.
Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage.
Ah, c'est sûr que Maître Renard, par l'odeur alléchée,
lui aurait rendu cet hommage.
J'y comprends rien, le cours des ventes, moi j'y comprends rien. Nasdaq to rent, I don't understand. Dow Jones, Nikkei, quelle est cette monnaie? Armée de gun et dynamite, la des valises et Wall Street. Stock market, that really far in the far west. Mais la crise avait tout pété et y'avait plus de banque à braquer. L'action a sombré dans la dépression. Et l'action a sombré dans la dépression. Le CAC 40, moi j'y comprends rien. Le cours des ventes, moi j'y comprends rien. Nasdaq to rent, I don't understand. No Jones, Nikkei, quelle est cette monnaie? Chinois. 40, moi j'y comprends rien. Le cours des ventes, moi j'y comprends rien. Nasdaq to rent, I don't understand. Dow Jones, Nikkei, quelle est cette monnaie?
Le mix des cultures.
walk in your shoes for a while. Try to carry your thoughts a mile. You won't let me. I don't understand why you think closeness would be wrong. You and I, we couldn't be friends. It all depends on whether your pride ends and begins with yours.